France Inter, le 7-9.
7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du groupe Les Républicains au Sénat.
Bonjour à vous Bruno Retailleau.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Nouvelle révélation de Mediapart dans l'affaire Benalla. Encore à l'Élysée, Alexandre Benalla aurait négocié personnellement deux contrats de sécurité avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, alors même que l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron était habilité secret défense. Si ça se confirme, ça veut dire que Benalla a menti devant vous, devant les sénateurs, devant la commission d'enquête sénatoriale. Qu'est-ce que vous demandez ce matin?
Le fait qu'il ait menti, c'est presque une quasi-certitude. Dans quelques semaines, Philippe Bas, les deux rapporteurs, vont pouvoir rendre leur rapport suite à la commission d'enquête du Sénat. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat avait déjà fait condamner un professeur de médecine qui avait menti sous serment parce qu'il témoignait devant une commission d'enquête. Il y a donc ce volet-là. Il y a l'autre volet, quelles leçons tirent des dysfonctionnements de l'État au plus haut niveau. Il y a un autre volet aussi, vous avez rappelé un certain nombre de points incroyables. Il y a aussi d'autres points. Comment se fait-il que cet individu ait pu, en quelques mois, rencontrer 5 chefs d'État africains avec des passeports diplomatiques? Ce sont des questions auxquelles répondront Philippe Bas et les deux co-rapporteurs.
Bruno Retailleau, vous n'êtes pas content. Vous en avez assez que votre nouvelle tête de liste aux européennes, François-Xavier Bellamy, se fasse critiquer. Vous dites, on le disqualifie avant même de l'écouter, on réactive le délit d'opinion, on lâche les chiens sur lui. Vous n'exagérez pas un peu là?
Non, écoutez, j'ai vu, il était, écoutez, j'ai entendu les mots crypto-fasciste, j'ai entendu aussi national-populiste, etc. Pourquoi pas fasciste? Tout simplement parce qu'il a proféré une opinion. Ce qui m'a agacé, c'est que j'ai vu revenir ce temps du débat où on n'écoute pas les arguments de l'autre, où on le disqualifie. Voilà, il y a une forme de délit d'opinion. Et ça, c'est absolument insupportable, insupportable. Et les gens, d'ailleurs, vous savez, dans la crise des Gilets jaunes, dans cette espèce de crise de démocratie, ils reprochent à un système politico-médiatique qui verrouille le débat. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, mais quand est-ce qu'on va parler de l'Europe? Monsieur Bellamy, avec d'autres, avec notamment Arnaud Danjean et puis Agnès Evren, doit porter une tête de liste. C'est un trio. Et ils ont des convictions. Nous avons des convictions. On voit bien que le débat va se prolonger jusqu'au 15 mars. Il y aura un débat sur le débat. Il faut peut-être quand même parler un peu d'Europe. L'Europe a rendez-vous avec l'histoire.
Oui, j'entends bien. Mais justement, le problème, si vous voulez, Agnès Buzyn, qui sera notre invitée dans 30 minutes, elle a vivement critiqué les prises de position de François-Xavier Bellamy, qui sont, selon elle, d'un archaïsme d'un autre siècle sur l'IVG ou la contraception. Ce qu'elle dit, c'est que vous pouvez pas dire, c'est ses convictions personnelles et ça n'a rien à voir avec son mandat politique. C'est un message politique de nommer tête de liste cet homme qui dit sur l'IVG ce qu'il dit. Pourquoi vous l'assumez pas que c'est un message politique?
Je ne fonctionnerai pas sur ce type d'argumentation qui vise encore une fois à disqualifier celui qui porte des opinions qui lui sont personnelles, qui n'engagent pas d'ailleurs le parti, peu importe, il s'en est occupé.
Enfin, le choisir lui alors qu'il dit ça. Faites pas de langue de bois en général. Pourquoi vous l'assumez pas?
Je ne fais jamais de langue de bois, simplement personne ne remet dans la famille politique auquel j'appartiens en cause la loi Veil. Première chose. Deuxième chose, pouvez-vous me dire, Léa Salamé, si la loi Veil sera justement un des grands aspects du débat européen? Non. Alors parlons de l'Europe. Est-ce que l'Europe que nous voulons, nous, c'est une voie qui soit médiane entre deux voies radicales, la France sans l'Europe, c'est-à-dire plus d'Europe du tout, c'est Madame Le Pen, et c'est avec Monsieur Macron, l'Europe sans la France. C'est deux impasses, notamment avec celle de Monsieur Macron qui va vers le fédéralisme. D'ailleurs, ces députés européens siégeront avec le Parti libéral de Monsieur Verhofstadt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une Europe sans démocratie. La Commission européenne est adémocratique. Nous, ce que l'on veut, c'est une Europe qui permette justement à la démocratie de vivre. Et la démocratie vit non pas dans un cadre institutionnel, un mécanicien de la Commission, mais vit dans les nations. Donc on veut réconcilier l'Europe avec les nations et surtout on veut une Europe de l'essentiel. Une Europe vraiment puissante sur l'essentiel. Par exemple, face au choc migratoire, les frontières, face aussi au problème de désindustrialisation et de la concurrence internationale, une Europe protectrice de nos emplois. Quand je vois Madame Vestager qui a interdit le fait qu'on puisse avoir un champion européen du rail, les bras m'en sont tombés. Ou
de la fusion Alstom.
Mais bien sûr. Donc cette idée d'une Europe vraiment puissante, mais sur l'essentiel, pas une Europe tracassière sur du détail. C'est l'idée que nous allons porter et une Europe démocratique, c'est-à-dire une Europe qui se fait dans l'intergouvernement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un peuple européen. Peut-être que viendra le jour où il y aura un peuple. Pour l'instant, non. Il n'y a pas une seule culture.
Hier, à votre place, Marine Le Pen a estimé que la venue en France du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, pour soutenir les Gilets jaunes, n'était pas de l'ingérence. Elle dit, quand Barack Obama apporte son soutien à Emmanuel Macron, tout le monde trouve ça formidable. Quand Di Maio rencontre des militants Gilets jaunes en France, tout le monde trouve ça scandaleux. Elle a raison ou vous y avez vu de l'ingérence?
Non, attendez, Madame Le Pen, c'est bien la même qui prétendait qu'on allait mettre sous la domination allemande l'Alsace-Lorraine pour le nouveau traité de l'Aix-la-Chapelle et qu'on allait céder le poste de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, en parlant de disqualification, quand on profère ce genre de propos, évidemment, on est contre la vérité. C'est d'ailleurs la vraie marque de fabrique des démagogues. Souvenez-vous, Peggy, leur règne et leur triomphe est éphémère, mais leurs ruines sont, elles, au contraire, beaucoup plus... longue, voilà, passagère.
Luigi Di Maio en France pour rencontrer les Gilets jaunes, c'est de l'ingérence ou pas ?
Éternel, absolument. Les ruines sont éternelles. Écoutez, moi je pense que, il y a une vraie faute du vice-président du Conseil italien. Ça, c'est absolument clair. Et quand on est français patriote, on doit le reconnaître. Deux, on doit reconnaître aussi que les torts sont partagés. Et qu'il y a une sorte de jeu de rôle entre M. Salvini et M. Di Maio et M. Macron en essayant de faire croire que l'Europe ne serait que justement ces deux impasses dont je parlais. D'un côté, les progressistes, les européistes, et de l'autre côté, les nationalistes. C'est M. Macron qui a commencé, vous savez, avec l'Aquarius. D'ailleurs, en refusant l'Aquarius, il... quasiment insulté et traité de cynique le gouvernement italien. Ensuite, on a eu les lépreux. Ensuite, on a eu un clip au mois d'octobre présentant M. Salvini, M. Orban comme des repoussoirs payés, bien sûr, par le contribuable français. Donc, je crois qu'il faut arriver
donc
à s'extraire.
C'est la faute d'Emmanuel Macron, vous dites ?
Je pense que les torts sont partagés. Et je pense qu'il tente de faire vivre une opposition manichéenne qui est dangereuse d'abord pour l'Europe. Elle est dangereuse pour l'Europe parce que l'Europe est au bord de la dislocation. Et le jour d'après, il faudra que la France gouverne l'Europe avec l'Italie, puisque la règle de l'unanimité pour les grandes décisions, c'est la règle générale.
Bruno Retailleau, pour sortir de la crise, vous dites pourquoi pas un référendum, mais comment vous le voyez ce référendum ? Est-ce que vous le voyez le jour des européennes ou pas ? Est-ce que vous voyez un référendum à choix multiples ? Est-ce que ce serait sur des questions institutionnelles seulement ou aussi sur des questions fiscales et pourquoi pas sociétales ? Comment vous l'espérez ce référendum ?
Je pense en tout cas qu'il faut une issue au débat. On voit bien le risque du débat, c'est qu'il s'embourbe dans des propos contradictoires et qu'il se focalise sur la figure du chef de l'État qui a une tendance à admirer son reflet dans le miroir des écrans de télévision. Mais la réalité pourrait revenir et pourrait briser ce miroir. Moi, je pense que, un, je suis absolument contre, j'ai dit au président de la République qui m'a reçu la semaine dernière, l'organisation d'un référendum en même temps que les européennes. On ne peut pas jouer les européennes à la roulette russe. Ça, c'est une conviction. Deuxième chose, la partie institutionnelle. C'est ce que M. Macron a proposé, moins de députés, moins de sénateurs. Pourquoi pas ? Mais ça sert à rien de faire un référendum sur des questions qui sont de toute façon totalement évidentes. Ce serait une sorte de détournement de la volonté populaire. Moi, je pense qu'un référendum serait du sens. Mais pour des vraies questions,
mais
je vous en donne deux.
Voilà.
Bah, par exemple, sur la retraite. Il y a un choix qui doit être clair. Vous dites aux Français, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on garantisse à nos aînés le pouvoir d'achat des retraites ? On peut les garantir, mais à ce moment-là, il faut augmenter progressivement l'âge de la retraite. Ou est-ce que vous voulez ne pas augmenter l'âge de la retraite, mais en contrepartie, à ce moment-là,
okay,
ce sera la capitalisation.
Une question, d'accord, voilà. Très bien. Et la deuxième,
l'immigration. Je pense que l'immigration
a été...
Un référendum
sur l'immigration, vous
sur un débat au Parlement, sur les quotas au Parlement. Je pense que si on laisse ce débat...
Pour ou contre une immigration choisie ?
Non, beaucoup plus précisément, faire en sorte que chaque année, le Parlement puisse débattre de quotas sur les étudiants, sur l'immigration de travail, etc. Je pense que c'est important parce que c'est un sujet, Marcel Gauchet l'a dit dans Le Malheur français, c'est un sujet qui a sans doute beaucoup impacté la société française et on l'a retiré de la délibération, justement, du peuple français. Je pense que c'est des questions importantes, il faut les poser, et certainement pas des questions qui ne seraient là que pour légitimer le pouvoir d'Emmanuel Macron.
Bruno Retailleau était notre invité, il donne des idées à Emmanuel Macron pour le référendum. Belle journée à vous.